France Inter.
Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, des Parisiens un peu chiffons.
À l'idée de devoir présenter un QR code pour circuler dans certaines zones pendant les Jeux Olympiques, un périmètre sécurisé va être mis en place une semaine avant la cérémonie d'ouverture sur la Seine et il faudra montrer patte blanche, indispensable selon la mairie de Paris et le ministère de l'Intérieur.
Et les autres titres, Kevin ?
La Suisse condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour inaction climatique aujourd'hui, est-ce que ça peut faire jurisprudence ?
Et c'est bien ce qu'on demandera à Arnaud Gossement, il est avocat spécialisé dans les affaires climatiques et c'est l'invité de ce journal.
Un impact de balle dans le portail d'une mosquée, ça se passe à Cherbourg. Et puis comme la viande ou les médicaments, l'origine du papier bientôt tracé, ça ne ravit pas le monde du livre.
Et dans le 18-20 ce soir, on parle du franc CFA auquel le Sénégal veut renoncer. C'était l'un des thèmes de campagne du nouveau président. Comment le Sénégal ou l'Afrique de l'Ouest peut se séparer de cette monnaie? Est-ce qu'elle est facteur de stabilité monétaire? Est-ce que c'est le dernier relent du colonialisme? C'est ce qu'on va demander à notre invité. C'est Lionel Zinsou, économiste et ancien Premier ministre béninois. Ce soir, nous sommes au Portugal où on a du lithium, mais des habitants pas du tout favorables à l'extraire en créant une mine à ciel ouvert. Kevin, vous nous expliquerez pourquoi une aspirante députée indienne doit prouver qu'elle ne mange pas de viande. Antoine Malot dans Le Monde à 18h50 a lu La Tribune, signée par Emmanuel Macron, le roi de Jordanie et le président égyptien. Et puis avec Caroline Gillet au Pays des 27, nous sommes avec des lobbyistes européens. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne et c'est l'assurance chômage qui nous intéresse et qui vous intéresse. Alors que le dernier tour de piste sur l'emploi des seniors est en cours de négociation, visiblement c'est douloureux. Réformer l'assurance chômage pour favoriser le plein emploi ou pas, chômeur, patron de PME, salarié, proche de la retraite ou pas, on vous attend. 01 45 24 7000.
France Inter.
Concilier, célébration et sécurité.
C'est tout le casse-tête des autorités françaises depuis des mois à propos de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui se déroulera sur la Seine, en plein air. Donc il a déjà fallu revoir la jauge de spectateurs à la baisse. Et aujourd'hui, Gérald Darmanin a dévoilé le plan de sécurisation de l'événement. Le 26 juillet et toute la semaine précédente, il faudra présenter un QR code et sa carte d'identité pour entrer dans ce que le ministre de l'Intérieur appelle une zone protégée, sans ça impossible de circuler. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Et vous êtes allé demander à des Parisiens ce qu'ils en pensent dans un quartier concerné, quartier très touristique de la capitale, celui de Saint-Michel-Notre-Dame.
Oui, Guylaine, 76 ans, habite au pied de la cathédrale dans cette zone de sécurité. Elle devra donc faire cette demande de QR pour circuler dans son quartier.
Si je m'inscris pas, je peux pas rentrer chez moi. C'est quand même la meilleure, ça. Alors, si on n'a pas de QR code, on rentre plus à notre maison. Ah ben c'est la meilleure, ça.
Nathalie, à ses bureaux, elle aussi, tout près de la Seine, elle envisage plutôt de renoncer à ce QR code.
Ça va nous poser des difficultés. Nous, on a une agence de communication dans le secteur. Et très honnêtement, je pense qu'on va devoir fermer boutique et mettre nos salariés en télétravail.
Inquiétude pour les commerces concernés. Nathalie vend des affiches, elle aussi, au pied de Notre-Dame.
Moi, ce n'est que le passage. Ça va nous poser des problèmes, oui. Parce que nous, nous travaillons uniquement avec les touristes. Si le quartier ne concerne plus que les gens vraiment qui y habitent, en quelque sorte, va être complètement impacté.
Des restaurateurs qui se questionnent également. Il faut regarder pourtant l'effet économique global de ces JO, souligne Vincent, restaurateur.
Il y aura une hausse d'activité la semaine suivante parce que de toute façon, les JO amènent énormément de gens dans Paris. On ne va pas se plaindre si pendant une semaine avant l'ouverture, il y a une petite baisse d'activité. On fait avec, c'est normal.
Une campagne de sensibilisation à ce QR code sera bientôt lancée dans la capitale auprès des commerces et des habitants concernés.
Un reportage signé Laurent Kramer et ce QR code, eh bien, les Parisiens pourront le demander à partir du 10 mai. On l'a entendu, tout le monde n'est pas ravi de la mesure. Mais d'après le maire de Paris-Centre, Ariel Weiss, c'est indispensable au bon déroulé de la cérémonie.
C'est plutôt des principes de bon sens, c'est-à-dire que toute personne qui doit accéder à l'intérieur, même de la zone la plus protectrice, hein, c'est pas la zone rouge, c'est vraiment la zone dite SILT de protection antiterroriste, pourra y accéder s'il y habite, s'il vient rendre visite ou s'il va au musée ou à la gare. Bah, c'est pas un enfer, il faut se faire un QR code, je crois que les gens en ont pris l'habitude il y a un certain temps, c'est qu'on a quand même un tout petit peu de temps pour se préparer. On n'est pas d'accord toujours sur tout avec le préfet de police, mais en l'occurrence là, je ne sais pas si vous avez de meilleures mesures à proposer pour tenir ensemble deux choses, que chacun puisse rentrer chez lui à tout moment et en sortir, et avoir à accueillir une cérémonie sans précédent.
Ariel Veil, le maire de Paris Centre, interrogé ce soir sur France Info. La sécurité des Jeux, la sécurité des matchs de foot européens aussi. Elle sera considérablement renforcée demain soir aux abords du Parc des Princes, dit encore Gérald Darmanin. Le parc où le PSG accueillera le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Alors que le groupe État islamique, dans sa propagande ces dernières semaines, menace particulièrement les grands événements sportifs.
Et voilà une décision sur le climat qui va faire date.
La Cour européenne des droits de l'homme a condamné aujourd'hui un État, la Suisse, pour inaction climatique. C'est historique parce que c'est une première. En revanche, la CEDH a débouté 6 jeunes Portugais qui attaquaient, eux, 32 États membres du Conseil de l'Europe pour le même motif. Sur place à Strasbourg, au siège de la Cour pour France Inter, Rémi Brancato.
Il sort de la salle d'audience sous les applaudissements. Martine Duarte Agostinho, l'un des 6 jeunes Portugais qui voulait faire condamner 32 États pour inaction climatique, finalement débouté.
Même si le jugement ne nous est pas favorable et que nous sommes déçus, les juges reconnaissent que le changement climatique est une menace existentielle pour l'humanité et un défi intergénérationnel.
Car la CEDH a rejeté sa requête, lui et ses camarades auraient d'abord dû saisir la justice dans leur pays. Ce qu'ont fait en Suisse les aînés pour le climat, cette association de femmes septuagénaires.
Le symbole est fort.
Anne Mareur est la coprésidente.
Parce que souvent on nous a dit, vous êtes responsables de l'état de la planète, vous, les personnes âgées. Oui, on a nos responsabilités, nous les prenons. Et c'est ça qu'on a dit aux jeunes. Ce que nous avons gagné aujourd'hui est valable aussi pour eux.
La CEDH estime que l'État suisse n'a pas agi suffisamment pour réduire ses émissions de carbone, limiter les effets du réchauffement sur la santé, effet que les requérantes dénoncent. Stéphanie Brander, membre de l'association.
On a fait le lien entre les droits humains et la santé, le climat. Et on est vraiment fiers d'avoir fait ce lien et d'avoir eu raison. Je pense que c'est un tournant.
La décision de la Cour s'applique désormais en théorie aux tribunaux des 46 membres du Conseil de l'Europe.
Le reportage de l'envoyé spécial de France Inter à Strasbourg, Rémi Brancato.
Et bonsoir Arnaud Gosman.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, vous êtes spécialisé en droit de l'environnement. On l'a entendu, une condamnation sur 3, donc celle de la Suisse, pour son manque d'action face au changement climatique. Ça reste une vraie victoire. Quelle voie, selon vous, vient d'être ouverte ?
C'est une étape fondamentale parce que la Cour européenne des droits de l'homme a fait un pont entre les droits de l'homme, entre cette convention de 1950 qui ne parlait évidemment pas de climat ni d'environnement à l'époque, et le changement climatique qui est aussi un défi fondamental du 21e siècle. Elle a reconnu le droit de tous les individus à bénéficier d'une protection effective de la part des États contre le changement climatique. Alors là, en l'occurrence, c'est la Suisse qui a été condamnée. Mais le droit, c'est un droit de l'homme pour tous les individus.
À quoi elle est contrainte maintenant, la Suisse ? Parce que le chef d'accusation, si je puis dire, qu'il a visé, est probablement transposable à d'autres États. Manquement des autorités pour atténuer les effets du changement climatique, mais c'est extrêmement large. Et au fond, on a du mal à comprendre quelles mesures peuvent et doivent être prises extrêmement rapidement maintenant pour que ce soit vraiment contraignant.
Alors, il y a 2 mesures à prendre. À très très court terme, il faut que la Suisse fasse un chèque de 80 000 euros à l'association des femmes suisses seniors engagées contre le changement climatique. 2, la Suisse doit, comme tous les États, être cohérente. C'est un devoir de cohérence. Elle affiche des objectifs ambitieux de lutte contre le changement climatique et la Cour lui reproche de ne pas mettre les moyens en face. Et très précisément, la Cour lui reproche de ne pas avoir défini pour la période postérieure 2024 un budget carbone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui auront été au préalable précisément quantifiées. Donc ce budget carbone, c'est ça qui manque en droit suisse, c'est d'ailleurs peut-être ça qui manque dans le droit d'autres États. Mais en l'occurrence, c'est la Suisse qui aurait dû établir ce budget carbone.
Arnaud Gosman, si Grande Synthe et le Portugal n'ont pas abouti comme on l'a entendu, est-ce que c'est vraiment grave ? Les jeunes Portugais, effectivement, on leur a répondu qu'ils n'avaient pas épuisé tous les recours chez eux. Pour ce qui est de l'ancien maire de Grande Synthe, on lui a dit « mais vous n'habitez plus à Grande Synthe désormais ». Est-ce que ça veut dire aussi que ces actions devant la tribunaux, devant la CEDH, ont aussi une immense valeur symbolique, en fait, et que ça compte aussi le symbole ?
C'est pas symbolique, parce que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme doivent être exécutés. Et ensuite, les opinions publiques, grâce au travail d'information que vous, journalistes, êtes en train de faire aujourd'hui, peuvent ensuite faire pression sur leurs gouvernants et sur l'ensemble des décideurs publics et privés. Donc c'est plus que symbolique. Et en l'occurrence, ce qui est très important, c'est que cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, s'il n'était pas exécuté, il y a aussi une procédure d'exécution devant le Conseil de l'Europe qui pourrait être engagée. Donc c'est plus que symbolique quand même. On est dans du contraignant, mais pas au sens qu'on lui donne en droit national, mais au sens du droit européen.
Et on voit bien, Arnaud Gosselin, que à quel point les tribunaux, et quels qu'ils soient d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de procédures en cours, deviennent aussi un outil dans le combat contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous diriez que oui, c'est le vrai outil efficace, en fait ?
Alors, c'est un levier parmi d'autres. Vous soulignez à l'instant que la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré recevable toutes les demandes présentées par des personnes physiques, y compris des femmes suisses, d'ailleurs, qui agissaient à titre individuel. Elle n'a déclaré recevable que le recours de l'association suisse de ces femmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un côté, eh bien, elle reconnaît ce nouveau droit de l'homme, mais de l'autre, elle n'ouvre pas les vannes du contentieux. Et il y a clairement un niveau d'exigence qui fait que demain, vous n'aurez pas une profusion de recours qui seront jugés recevables par la Cour. Donc, les prochains recours devront être élaborés de manière extrêmement rigoureuse pour pouvoir ensuite passer le filtre de la recevabilité et être accueilli comme l'a été accueilli ce recours de l'association suisse.
Arnaud Gosselin, avocat spécialisé en droit de l'environnement, avec nous dans ce journal. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi la tenue des obsèques de Chemseddine cet après-midi en Essonne. L'adolescent de 15 ans battu à mort jeudi à Viry-Châtillon a été inhumé dans la plus stricte intimité. À la demande de la famille, aucun média n'était présent. Un périmètre de sécurité était installé autour de la mosquée de Savigny-sur-Orge. La mort de Chemseddine évoquée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Lors des questions au gouvernement, Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemblement National, a interpellé Gabriel Attal.
N'est-il pas temps, sans tabou, sans dérobade devant le réel, sans lâcheté devant les mesures à édicter, de prendre à bras le corps ce sujet et, par exemple, de mettre en pratique pénale la sacralisation de la personne humaine ? Le défi qui nous est lancé tient en un mot, autorité. Autorité à l'égard des familles, parfois vivier de la violence. Autorité à l'école, ce lieu sacré que chacun doit apprendre à respecter. Autorité implacable que l'État doit imposer à des bandes qui deviendront des gangs, puis des armées criminelles, si nous laissons faire davantage.
Et voici la réponse du Premier ministre.
Quand un jeune part à la dérive, il ne faut pas attendre que la situation s'aggrave pour provoquer un conseil de discipline. Il faut agir tout de suite dans le cadre de l'éducation nationale. Quand un jeune part à la dérive et que manifestement sa famille ne parvient pas à le remettre dans le droit chemin, il faut le couper de ses mauvaises fréquentations et assumer de le placer en internat. C'est ça les mesures sur lesquelles nous travaillons. Il faut être aussi beaucoup plus sévère, beaucoup plus fort face à certaines situations où des familles laissent délibérément des jeunes partir à la dérive et pourrir la vie d'un quartier. Nous allons présenter des mesures dans les prochaines semaines extrêmement claires, extrêmement fortes pour ce sursaut. Nous allons continuer à agir partout pour la sécurité, l'ordre et le respect de l'autorité dans notre pays.
Échange capté à l'Assemblée nationale par Claire Flochel. 4 personnes sont mises en examen pour assassinat après la mort de Chemseddine. Une marche blanche aura lieu vendredi à Viry-Châtillon.
Le ramadan s'achève demain.
Oui, avec l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne. Mais pour les musulmans de Cherbourg dans la Manche, la fête ne sera sans doute pas aussi souriante que d'habitude. Un impact de balle a été découvert sur le portail de la mosquée de la ville, Jacqueline Fardel.
Oui, c'est une balle de fusil de chasse qui a été retrouvée dans le bas du portail métallique. Un tir qui serait survenu dans la nuit de dimanche à lundi, selon le procureur de la République de Cherbourg. Aucun témoin ne s'est pour l'instant manifesté. Sur place, la présence des policiers est renforcée au moment des cérémonies, puisque la mosquée, comme les autres lieux de culte de Cherbourg, fait déjà l'objet d'une plus grande surveillance après le passage au niveau maximum du plan Vigipirate sur tout le territoire il y a 2 semaines. Présence encore renforcée donc pour assurer les fidèles, alors que la communauté musulmane célèbre demain la fin du ramadan, la fête de l'Aïd el-Fitr, et d'autant que ces faits se produisent 4 mois après la découverte de tags racistes et de menaces de mort inscrites également sur ce portail de la mosquée en novembre dernier. Les responsables se réunissent tout à l'heure à 20h, notamment pour savoir comment communiquer pour ne pas alimenter les tensions. On se pensait protégé à Cherbourg, nous disait le porte-parole de la mosquée. On ne pouvait pas imaginer ça.
Les précisions de Jacqueline Fardel, France Bleu, Cotentin. L'armée américaine a livré 5000 fusils et des munitions iraniennes à l'Ukraine en fin de semaine dernière. On l'apprend ce soir. Il s'agit en fait d'armes saisies aux rebelles houthis du Yémen. L'Ukraine qui a de nouveau bombardé la Russie aujourd'hui à sa frontière. Une femme et un enfant ont été tués dans la région de Bryansk, d'après les autorités locales russes. Et toujours en Russie, plus précisément dans la République russe de Tchétchénie, la dictature de Ramzan Kadyrov décide d'interdire certains types de musique. politique jugée trop lente ou au contraire trop rapide, à partir du 1er juin, les Tchétchènes n'auront plus le droit d'écouter de la musique dont le tempo ne se situe pas entre 80 et 116 battements par minute, c'est très précis. Une instrumentalisation de la culture au service d'une politique toujours plus répressive, Olivier Poujade.
La sélection est drastique, à peine 80 BPM pour ces chants traditionnels de femmes du nord du Caucase, tout juste validés par le nouveau label Kadyrov. Avec 118 au compteur, le très populaire DJ Tchétchène se retrouve, lui, en léger excès de BPM. Ce standard musical imposé par le régime est particulièrement lent par rapport à la production d'aujourd'hui, surtout celle qui arrive d'Occident. Cet Occident considéré comme décadent par Kadyrov, l'Occident et ses musiques électroniques, house, techno, trance, des styles auxquels s'identifie une grande partie des communautés homosexuelles. Le régime Kadyrov les persécute depuis 2017, violence, arrestation, humiliation. Elles sont évidemment visées par cette nouvelle loi liberticide qui interdit aussi les morceaux les plus lents, les adagios, l'argo et l'arghetto de la musique classique se situe tous en deçà de 80 BPM, comme cette œuvre magistrale d'Alexandre Alexandrov. Et là, Ramzan Kadyrov, le fidèle fantassin de Vladimir Poutine, a peut-être commis un impair, puisque l'hymne national de Russie ne plafonne qu'à 71 petits BPM.
Olivier Poujade de la rédaction internationale de France Inter.
D'où vient le papier utilisé pour fabriquer nos livres ?
Une question qui inquiète les éditeurs alors que le Salon du Livre de Paris ouvre après-demain parce qu'à la fin de l'année entre en vigueur une règle européenne qui vise à indiquer sur les livres l'origine exacte du bois qui a servi à leur confection, une traçabilité du papier qui ne passe pas du tout auprès des professionnels du secteur. Hélène Amor-Youssef.
Demain, quand vous irez chez votre libraire pour acheter le prix Goncourt, vous pourrez lui demander quelles parcelles de forêt ont servi pour fabriquer le livre que vous avez entre les mains. Dit comme ça, cela peut paraître séduisant, mais ça ne fait pas du tout rire les industriels du papier. Pierre-Antoine Lacour est leur délégué général.
Pour produire un livre, on a donc du papier qui le constitue, et le papier provient potentiellement de milliers de parcelles forestières. Et donc on ne voit pas comment il sera matériellement possible d'indiquer que dans tel livre, c'est telle et telle parcelle qui ont été utilisées.
Selon les industriels du secteur, une tonne de papier égale potentiellement 16 000 parcelles concernées. Pascal Lenoir, président de la commission environnement du syndicat national de l'édition et directeur de la production chez Gallimard.
L'édition française, c'est 200 000 tonnes de papier consommées à peu près en France. Vous multipliez par 16 000, vous voyez la masse d'informations. Informations qu'il nous sera demandé de saisir sur des plateformes dédiées par la Commission européenne et que l'on devra saisir à la main.
Le logiciel de la Commission européenne peut sans doute être amélioré, répond Sylvain Angeran de l'ONG Canopée Forêt Vivante. Mais selon lui, ce n'est pas le sujet. Même si couper des arbres et replanter n'est pas de la déforestation au sens strict, cela peut conduire à une forme de dégradation de la forêt. Il estime que cette règle permettra plus de transparence.
Ilana Moriosef, service culture de France Inter. Jonas Vingegaard a été opéré de la clavicule avec succès. C'est ce que dit ce soir son équipe, Visma Liesebike, le double vainqueur du Tour. L'équipe du double vainqueur du Tour de France qui dit en revanche ne pas pouvoir pour l'instant dire combien de temps son champion est indisponible. Vingegaard tombé lourdement la semaine dernière sur les routes du Tour du Pays Basque. En plus de la clavicule, il a plusieurs côtes fracturées et le Tour commence dans moins de 3 mois. Et puis lui a fini par déclarer forfait au tournoi de tennis de Monte Carlo. Carlos Alcaraz, qui devait entrer en lice demain, n'a pas réussi à se remettre à temps d'une blessure au bras droit. Du côté des Français, Gaël Monfils joue en ce moment son premier tour. Arthur Fils joue son deuxième tour à partir de 19h.
Et merci beaucoup Kevin Dufresne et joyeux anniversaire.
Merci.
Kevin, exceptionnellement, je serai gentil encore un quart d'heure avec vous quand vous reviendrez, par exemple, pour Sous les radars.
Juste un tout petit peu plus vieux que vous.
Profitez-en à peine. On jette un œil sur le ciel, s'il vous plaît.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Élodie Calac, bonsoir. Encore des averses ce soir?
Oui, quasiment partout avec du vent. Elles vont quand même s'espacer progressivement ce soir et cette nuit. Demain, on trouvera des averses des Alpes à la Corse, de la neige en moyenne montagne, quelques averses également sur la Nouvelle-Aquitaine l'après-midi. Et puis une perturbation arrivera sur le Finistère le matin et s'invitera jusqu'à la Vendée et à la Normandie dans l'après-midi avec beaucoup de nuages, très peu de pluie et du du vent jusqu'à 50 km à l'heure.
Et ailleurs, plus d'éclaircies.
Oui, un ciel hésitant entre nuages, éclaircies, des éclaircies très belles le matin de la région parisienne vers le Pas-de-Calais et les Ardennes, puis des Bouches du Rhône au Roussillon avec du vent fort en Mistral Tramontane jusqu'à 100 km à l'heure. Il faudra composer avec quelques brouillards le matin entre le nord de l'Aquitaine et le Val-de-Loire, mais on n'en parlera plus l'après-midi. Et puis côté thermomètre, souvent 1 à 7 degrés le matin jusqu'à 11 en Méditerranée. L'après-midi, 13 à 17 degrés attendus et jusqu'à 20 degrés sur le sud-est.